du style, de l'énergie, de la gueule. Choc 105.1, 100% Toronto.
Il est 7h passées de 1 minute à Toronto. Bonjour Toronto, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Bonjour Toronto. J'espère que vous êtes réveillés du bon pied et surtout que vous allez tout faire pour profiter de cette journée qui s'annonce plutôt belle. C'est vrai qu'il y aura de la pluie comme on va s'en rendre compte tout à l'heure dans les prévisions météorologiques, mais j'estime que c'est plutôt une belle journée compte tenu de la saison de l'année. Nous sommes bien bel et bien avancés dans l'automne et on pourrait dire même que c'est déjà un début d'hiver, mais il continue d'avoir un tout petit peu de soleil et des températures plutôt clémentes. Je suis Elvis Nwemsi et je suis très très heureux de vous retrouver aux commandes de cette émission. Alors je vous fais une petite confidence, j'étais ce week-end aux États-Unis, c'est la raison pour laquelle j'ai disparu des antennes. Je vais vous faire un petit scoop de ce qui s'est passé là-bas pendant que j'y étais, parce que ça a été, je dois l'avouer, quelque peu mouvementé et mon petit cœur de Torontois n'était pas préparé à ça. Quoi qu'il en soit, je suis très très heureux de vous retrouver aux commandes de cette émission et nous commençons tout de suite par le bulletin d'infos de Denis Lépine. Merci Denis Lépine pour le bulletin d'info. Quelles sont les conditions météorologiques aujourd'hui à Toronto? Alors présentement, il fait 7 degrés sur Toronto et probablement dans tout le Grand Toronto. Nous allons aller jusqu'à 11 degrés aujourd'hui. Ce sera généralement nuageux et quelques averses en débutant ce matin. Donc prévoyez un parapluie parce qu'il pourrait pleuvoir un tout petit peu. Nous allons avancer graduellement et ce soir et cette nuit, on aura 4 degrés avec toujours de la pluie et des averses qui vont cesser aux alentours de minuit. Et qu'en est-il de la circulation? Eh bien, ça passe plutôt pas mal ce matin, contrairement à ce qu'on a pu voir la semaine dernière, notamment, où à 7h, on avait déjà pas mal de trafic sur certaines de nos grandes routes. Alors, si aujourd'hui vous vous déplacez sur l'autoroute 404 en direction du sud, entre Stouffville Road et Cardiner, vous accuserez à peu près 15 minutes de retard. Si vous êtes sur la 401, en direction de l'est, entre Winston Church et l'autoroute 410, vous accuserez 11 minutes de retard. Alors, on va partir maintenant en musique avec Félix Leclerc et Sally Fox qui nous chantent Le Petit Bonheur. Et ensuite, on reviendra pour notre premier entretien que m'a accordé Madame Catherine Carl au sujet de la très très belle initiative portée par ses services. Dans cette initiative, il est question de mettre en bande dessinée les aventures de Sir Wilfrid Laurier qui fut le premier ministre bilingue du Canada. Mais tout de suite, on s'écoute une très très belle musique, Le Petit Bonheur, et je vous souhaite plein de bonheur ce matin.
La musique d'abord. 105.1, Choc FM.
Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM, je suis Elvis Nwemsi, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec une invitée particulière, elle s'appelle Catherine Carl, elle est responsable des communications pour la Fondation Dialogue. Bonjour Catherine.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, et vous-même?
Oui.
Alors, si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler d'une initiative tout à fait particulière, puisque votre fondation est à l'origine d'un projet singulier. Il s'agit d'une bande dessinée, mais pas n'importe laquelle des bandes dessinées. Pouvez-vous nous parler de cette bande dessinée? Sur qui est-ce qu'elle porte? Sur quel personnage historique est-ce qu'elle porte?
Oui, en fait, c'est sur Sir Wilfrid Laurier,
oui,
qui est né le 20 novembre 1841. Donc, nous, à la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, donc la Fondation Dialogue, on a décidé de souligner son anniversaire dans le cadre aussi du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.
Oui.
Vous savez, il y a plein d'initiatives qui vont être organisées cette année. Donc, à la Fondation, on désirait souligner des personnages ou des événements qui ont marqué le Canada aujourd'hui, donc ce qu'il est devenu. Sir Wilfrid Laurier, qui a été premier ministre, a été un personnage vraiment important, puis ce qu'on voulait surtout faire apprendre aux jeunes et aux familles, c'était que c'était le premier ministre francophone et bilingue.
OK.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris de ce politicien. Ce qui était important de savoir aussi, oui, on a fait une bande dessinée à propos de Sir Wilfrid Laurier, mais c'est surtout un site web. Donc, on peut aller sur le www.laurier175.ca.
Est-ce que vous pouvez répéter l'adresse? www.laurier175.ca. Oui.
Donc, c'est son nom de famille avec l'année qu'on veut souligner cette année. Puis, sur ce site Internet-là qui vise les familles, mais qui vise aussi un peu tout le monde, les Canadiens, les Canadiennes, on retrouve une bande dessinée, mais animée. Donc ça, c'est 5 petites capsules qui bougent, là, tu sais, des petites animations pour enfants.
Oui.
Qui démontre la vie et les événements importants de Wilfrid Laurier quand il était premier ministre, mais aussi avant, puis aussi après. On parle aussi de sa femme Zoé Lafontaine, on parle des grands événements dont a fait partie Wilfrid Laurier. Donc, dans ces petites capsules animées-là, on a aussi, une fois qu'on a écouté toutes les capsules, un concours. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser les familles. On participe ensemble avec les enfants. On écoute les capsules, puis ensuite, on peut répondre à des questions pour voir si on a bien compris, si on a bien appris sur Sir Wilfrid Laurier. On court la chance de gagner un voyage à Ottawa.
Wow.
Ou sinon, on peut gagner un iPad mini avec de l'argent chez Best Buy.
Ah ben.
Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour tout le monde. Tu sais, même les ados pourraient beaucoup apprécier. Ensuite, on a justement ces petites activités-là. On peut aller dans la section « Outils » sur le site web. C'est là qu'on peut télécharger la bande dessinée. C'est ce que probablement l'outil que vous avez consulté en premier sur Wilfrid Laurier. C'est super intéressant, une bande dessinée bilingue. On peut télécharger celle en français ou celle en anglais. Nous aussi, au bureau de la Fondation, on a quelques copies déjà imprimées. Donc, si les gens sont intéressés à en recevoir une, ça nous fait plaisir de vous l'envoyer. Il faut juste nous faire la demande par courriel. Toutes okay. les informations sont disponibles sur le site laurier175.ca.
OK.
Puis en plus de tout ça, on offre aux enseignants un guide pédagogique. Donc, ce guide-là, il est disponible aussi en français ou en anglais. Il y a environ une vingtaine de pages d'activités de toutes sortes. Il y a des petites activités à choix de réponse, il y a des jeux, il y a des petites activités pour faire des communications orales ou des petits textes écrits. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tous les types de classes aussi, les classes d'histoire, les classes de français, d'anglais. Ça peut intéresser vraiment toute la population canadienne, française ou anglophone.
OK, très bien. Alors, chère Catherine, pour que nos auditeurs comprennent très bien le contexte de tout ce que vous faites, vous avez parlé de la bande dessinée, du site Internet et bien sûr du matériel pédagogique, tout ça pour que l'on comprenne... Pourquoi vous le faites en fait? Quelle est votre mission à la Fondation pour le dialogue? Qui êtes-vous exactement?
Donc nous, on veut promouvoir, soutenir le dialogue entre les différentes composantes de la société canadienne. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait différentes activités pour regrouper un peu différents types de publics ou regrouper les Canadiens et les Canadiennes. On n'est pas politique. Nous, on veut vraiment faire des activités culturelles qui démontrent la vitalité, la diversité de la francophonie. Puis aussi inviter les anglophones à participer avec nous.
Oui.
Donc, le projet Laurier 175, c'est pour ça aussi qu'il est complètement bilingue. On veut que les anglophones apprennent un petit peu par rapport au personnage qui était le premier ministre francophone et bilingue. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Puis en plus, Wilfrid Laurier, il y a des valeurs qui sont très présentes dans le Canada d'aujourd'hui puis qui reflètent beaucoup la Fondation Dialogue aussi, comme la diversité, la tolérance et la dualité linguistique et le sentiment d'appartenance au Canada. Donc ça, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur dans ses valeurs et dans le contenu aussi. Puis, probablement que vous avez déjà entendu parler des rendez-vous de la francophonie qui passe au mois de mars. Donc ça, c'est un de nos projets annuels aussi.
Mmh. OK, très bien. Mais alors, Catherine, dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez opté pour la bande dessinée? Vous auriez pu choisir n'importe quel autre médium. Il est clair, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a le site Internet.
Oui.
Mais pourquoi la bande dessinée?
Parce qu'en fait, là, l'information qu'on transmet, c'est très historique. Hein? Ça peut être assez difficile pour les jeunes d'embarquer dans l'histoire de Sir Wilfrid Laurier, le premier ministre.
Oui.
Donc, on s'est dit comment attirer les jeunes, comment attirer les familles vers un sujet qui est quand même difficile à retenir. Donc, en faisant une bande dessinée, c'est très populaire auprès des jeunes. On a consulté plusieurs familles à ce sujet-là. On s'est dit, bon, on va faire une bande dessinée. Déjà là, ça va être super intéressant, plein de couleurs. Puis, si on prend le temps de lire les différentes pages, là, c'est il y a certaines images qui sont très très humoristiques aussi, qui peuvent attirer les jeunes. Là. Donc, on s'est dit, une bande dessinée, c'est une bonne idée. Puis, en plus, on va pousser la bande dessinée un petit peu plus loin en faisant les capsules animées. Les jeunes sont beaucoup, beaucoup sur les iPads aujourd'hui. Donc, ils ont besoin que ce soit quelque chose d'interactif.
Oui.
En faisant des capsules animées, déjà là, on a leur attention. C'est à peu près 2 minutes chaque capsule. Donc, c'est assez court. Puis, on a fait des tests. Puis, les jeunes adorent vraiment ça.
Oui. Alors moi j'ai reçu la bande dessinée en fichier PDF. Je dois avouer qu'elle est de très très bonne facture et ça me donne vraiment envie de découvrir encore plus sur l'histoire du Canada. Est-ce que vous avez d'autres projets? J'imagine que c'est un peu tôt pour poser la question parce que celui-ci vient à peine d'être mis sur pied. Mais est-ce que vous avez d'autres projets auxquels vous songez déjà? Peut-être des personnages historiques au moins aussi importants que Sir Wilfrid Laurier qui serait intéressant de faire découvrir au Canada. Aux Canadiens, j'allais dire, via la bande dessinée?
Oui, on en a un autre qui s'en vient. J'en parlerai pas tout de suite. Donc ça, ce sera un sujet la prochaine fois.
OK.
Mais oui, on a un autre projet parce qu'on a beaucoup apprécié le projet qu'on a fait pour Sir Wilfrid Laurier. C'est pas la même chose, c'est pas le même concept du tout, mais on travaille à ce niveau-là, encore une fois, pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.
OK, très bien. Je vous remercie infiniment, Catherine, pour ce très bel entretien et surtout pour cette magnifique initiative qui est la vôtre. Je pense que vous avez trouvé la meilleure manière de rendre l'histoire attrayante pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi. Si je dois vous parler rapidement comme ça de ma propre expérience, je suis canadien depuis plus récemment, j'allais dire. Okay. Et j'ai fait les examens de passage, en fait, que l'on fait habituellement. Oui, oui, effectivement. Et donc, j'aurais souhaité avoir des ressources telles que la vôtre qui auraient sans doute rendu la préparation un peu plus distrayante parce que je n'avais que des ressources très, très formelles, en fait. Mm-hmm. Et j'aurais souhaité avoir des ressources comme les vôtres qui rendent vraiment l'histoire enrichissante et ça devient comme une sorte d'aventure. Donc, je félicite vraiment cette initiative.
Merci, c'est ça, c'est quelque chose de très, très pratique pour les nouveaux arrivants qui veulent apprendre un petit peu plus sur l'histoire du Canada, des Canadiens en général, français et anglais. Donc, au laurier175.ca, vous allez trouver toute l'information. Puis, on est aussi sur les médias sociaux avec le mot-clic laurier175.
Merci beaucoup, Catherine Carl.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite une très, très bonne journée.
À vous aussi.
Restez toujours à l'écoute de Choc FM. Champs-Élysées de Joe Dassin, très très belle chanson, une espèce de classique de la musique française et plus même, je dirais, francophone. J'espère que vous l'avez dégusté avec plaisir. Ça fait 36 ans déjà que Joe Dassin est mort, ça fait longtemps quand même, hein. Il est décédé en 1980 et je crois que ses chansons et puis son histoire, sa trajectoire parle à pas mal de nos auditeurs, notamment les francophiles, les personnes qui ne sont pas nécessairement nées avec la langue française mais qui ont appris à la découvrir, à l'aimer. Ça fait plaisir de vous faire écouter une nouvelle fois cette chanson qui nous rappelle certainement pas mal de belles choses, de très bons souvenirs. Alors on va changer un tout petit peu de génération et s'écouter quelque chose d'un peu plus moderne avec Luke, qui est un chanteur qui nous vient de Montréal. Il nous chante Baby You're Right. Ne vous fiez pas au titre parce que c'est la version française de ce titre. À tout de suite. Vous êtes bien à l'écoute de Choc FM, il est 7h passées de 25 minutes, vous écoutez en ce moment Luke qui est une sorte de Joe Dassin à sa manière parce que comme Joe Dassin, il a la double culture francophone et anglophone, très très bon chanteur qui nous vient de Montréal et qui nous chante ce matin Baby You're Right. Après Luke, ce sera Yves Montand qui va nous chanter Les Feuilles Mortes et ensuite on partira pour un peu de réclame et ensuite ce sera le bulletin des sports avec Denis Lépine. Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM, je suis Elvis Noemsi, bienvenue. Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM, il est 7h30, tout de suite le bulletin des sports de Denis Lépine. Merci Denis pour ce bulletin des sports complet. Alors, il fait actuellement 8 degrés à Toronto, nous avons pris 1 degré depuis le commencement de cette émission, je vous l'annonçais un peu plus tôt, il y aura probablement quelques averses aujourd'hui, le ciel restera nuageux et on ira jusqu'à 11 degrés cet après-midi, ce soir on aura environ 4 degrés avec des averses cessant vers minuit. Demain ce sera 5 degrés de manière générale avec 40% de possibilité d'averses, vendredi 6 degrés avec 30% de possibilité d'averse et le week-end, on devrait alterner entre soleil samedi et pluie et un tout petit peu de neige aussi dimanche qui nous offrira une température de 3 degrés. On va s'écouter maintenant Ariane Moffat qui nous chante Les Tireurs Fous. Ensuite, ce sera l'entretien que j'ai eu avec Jason Pelletier qui a reçu, ou du moins qui nous a accordé cet entretien dans la mesure où la semaine dernière était placée sous le signe de la prévention contre l'intimidation, notamment en milieu scolaire. Et donc Monsieur Pelletier, qui est une personne ressource dans ce type de situation, nous a accordé un entretien pour parler de la nécessité précisément de ce type d'événement. Et ensuite, après l'entretien avec Jason Pelletier, nous écouterons une tranche de musique et ça ne s'invente pas, ce sera Bruno Pelletier, pas le Jason Pelletier de l'entretien, mais plutôt le chanteur Bruno Pelletier qui nous chantera 50 fois. Mais tout de suite, Ariane Moffat, les tireurs fous. Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM 105.1, je suis Elvis Mouemsi. Cette semaine est sous le signe de la prévention et de la sensibilisation à l'intimidation. Il s'agit notamment de la manière dont l'intimidation est vécue par les élèves, qui sont sans doute les personnes les plus exposées à ce phénomène, en même temps que les plus fragiles face à celui-ci. J'ai le plaisir de recevoir pour en parler Jason Pelletier du conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. Monsieur Pelletier nous parle en qualité de conseiller pédagogique. Bonjour Monsieur Pelletier.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, merci de m'accueillir à votre émission aujourd'hui.
Ah, c'est moi qui vous remercie. Je le disais donc, si vous êtes sur Choc FM aujourd'hui, c'est parce que votre conseil scolaire est à l'initiative d'un certain nombre d'activités qui visent à rendre cette semaine de sensibilisation plus efficace encore. Mais avant de parler précisément de ce que l'institution à laquelle vous appartenez compte faire, dites-moi, qu'est-ce qui a justifié la mise en place d'un tel mouvement, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une seule journée, mais bien d'une semaine entière dédiée à ce phénomène?
Ben en fait, c'est sûr que oui, le conseil scolaire de district catholique Centre-Sud s'engage à cette semaine. C'est pas une initiative qui est venue nécessairement de nous, d'autant plus qu'on voit l'importance de ceci. Oui. C'est une initiative qui vient du ministère de l'Éducation, en fait, suite au projet de loi 13. Et puis le projet de loi 13 qui est sorti en 2014, c'était un projet de loi que le ministère de l'Éducation avait soumis, si vous voulez, à tous les conseils scolaires en Ontario, que ce soit francophone, anglophone, public ou catholique. Et puis, parmi les recommandations qui se trouvaient dans ce projet de loi 13-là, il y avait la recommandation de souligner pendant à chaque année, il y allait avoir la troisième semaine du mois de novembre allait être dédiée pour faire la prévention et d'outiller les élèves à traiter de matières d'intimidation dans toutes les écoles de l'Ontario.
Ok, très bien. Mais pour quelle raison est-ce que le ministère a jugé bon d'instaurer cette semaine de sensibilisation? Bien sûr, comme vous l'avez dit, en concertation avec les conseils scolaires.
Bien, vous voyez, l'intimidation, c'est pas de ce matin, puis c'est pas de cette année que ça dure. Ça fait longtemps qu'on voit ça dans toutes sortes. On le voit dans les écoles, on le voit dans les clubs sportifs, on le voit dans toutes sortes d'endroits de la vie des enfants et même des adultes. Mais je pense qu'il a vraiment motivé le ministère de s'engager à un tel projet de loi. C'est toute cette histoire de médias sociaux. Les médias sociaux ont apporté énormément de positifs en éducation et auprès de nos élèves, mais par contre, ça a aussi apporté une plateforme qui est parfois négative, et puis il fallait vraiment se trouver des initiatives, trouver des solutions à outiller les élèves de comment intervenir, puis de comment se protéger de l'intimidation qui peut se venir sur différents médias sociaux.
Ok, justement, en parlant d'intimidation, alors quelles sont les personnes les plus exposées à l'intimidation et de qui sont-elles habituellement les victimes?
C'est sûr, ça dépend dans tous les cas. Évidemment, chez les jeunes adolescents, c'est quelque chose que l'on retrouve peut-être plus fréquent. On fait aussi, parmi le projet de loi 13, il y avait aussi le fait que les écoles sont mandatées d'avoir des sondages de climat scolaire à tous les 2 ans. Oui. Certaines de nos écoles et la plupart de nos écoles choisissent de le faire à chaque année. Et avec de tels sondages sur le climat scolaire, on remarque certaines tendances parmi certains groupes d'âge au niveau de l'intimidation. Et on voit, autant qu'on pense peut-être que l'intimidation peut être très physique et très verbale, ce qui est deux de ses formes, il y a aussi sociale et cyber-intimidation qui composent les 4 formes d'intimidation. On remarque une forte présence au niveau du taxage et de l'intimidation au niveau des réseaux sociaux. On sait tous, si vous avez des adolescents ou des jeunes ados à la maison, qui sont tous et toutes branchés très souvent sur les réseaux sociaux. Et puis, on trouve que c'est aussi une plateforme qui se retrouve dans les écoles. Écoutez, si les enfants, ils sont sur les réseaux sociaux les fins de semaine et puis arrivent à l'école, ils ne seront pas frais et dispo et prêts à apprendre à l'école, c'est quelque chose qui nous concerne. Donc, si ça se passe à l'extérieur de l'école, sur les médias sociaux, un endroit qui nous appartient pas nécessairement, mais que l'enfant n'arrive pas à l'école frais et dispo et prêt à travailler, il faut absolument qu'on soit impliqué puis qu'on soit aux aguets et on a un devoir d'intervenir pour que l'enfant puisse se rendre à l'école et bien apprendre.
Ok, très bien. Donc, si je comprends bien, malheureusement, les enfants, les ados sont pour l'essentiel victimes de ces phénomènes, mais c'est souvent aussi des ados qui sont les auteurs, parfois même sans le savoir, c'est-à-dire sans mesurer tout à fait les conséquences des actes qu'ils posent.
Oui, absolument. Et puis ça, c'est quelque chose que, avant d'être conseiller pédagogique, j'étais en salle de classe, évidemment. Et puis, on avait fait des exercices au niveau, puis moi, précisément, c'est un sujet qui me passionne énormément. Quand j'enseignais la troisième et la quatrième année, qui est quand même très jeune encore pour l'intimidation, ce que, à travers le questionnement, puis à travers différentes activités qu'on faisait avec les élèves, j'ai remarqué que souvent, et puis je dirais dans la plupart des cas, les élèves me disaient, ben on n'essaie pas de blesser les autres, on veut juste être drôle. Et puis souvent, c'était les élèves essayaient d'être drôle, mais le faisait de façon très maladroite et finissait par blesser les élèves.
Ouais.
Et puis, des fois, c'était juste d'avoir des activités, puis d'avoir les discussions avec les élèves, de trouver la source du problème. Pas nécessairement que l'élève avait l'intention de vraiment blesser l'autre élève ou d'aller s'y prendre à un trait physique ou d'un autre élève. Mais vraiment, je remarquais très personnellement, et je parle juste pour moi, pas pour l'ensemble du conseil ou de la province, mais ce que je remarquais, c'est que souvent les élèves étaient très maladroits dans la manière où ils construisaient leurs blagues. Et puis, pour eux, d'être drôle, c'était de rire des autres. Et puis, on a trouvé une manière de contourner ceci. Puis, j'ai trouvé dans ce genre d'exercice-là, quand j'étais en salle de classe, que ça limitait beaucoup l'intimidation verbale, surtout.
Ok, très bien. Et alors, depuis la mise en place de cette semaine de sensibilisation, vous parliez des activités que vous avez fait avec les élèves, du fait qu'ils ne réalisaient pas nécessairement la portée de leurs actes. Vous avez le sentiment qu'il y a quand même une évolution satisfaisante dans les comportements, que les élèves sont réceptifs?
Oui, absolument. Écoutez, maintenant que j'ai mon rôle de conseiller pédagogique au conseil de district catholique Centre-Sud, notre territoire passe de la région nord de Barrie, Orillia, Collingwood, et puis on rejoint jusqu'à la péninsule du Niagara.
Okay.
Et j'ai la chance de voyager à travers tout ce territoire-là, puis de voir les belles initiatives que se passent dans nos écoles élémentaires et secondaires. Et je devrais dire que autant que l'intimidation peut être présente et est présente dans certaines de nos écoles et certaines de nos régions, on prend ça très au sérieux, mais franchement, depuis 2014, il y a énormément d'initiatives et de sensibilisation qui se passent dans notre conseil scolaire et même dans les autres conseils scolaires limitrophes avec qui on a des partenariats et puis on discute et on parle de différentes initiatives qu'on peut faire pour mettre fin à ce genre d'intimidation. Et je vais vous dire ce qui se passe. Il y a beaucoup de chemin à faire. On a toujours un travail à faire. C'est un travail qui continue, qui n'a pas de fin. La prévention ainsi que la réaction à ce type d'intimidation. Mais on travaille très fort et puis on travaille de concert avec nos partenaires communautaires ainsi que les autres conseils pour trouver des nouvelles initiatives pour mettre fin aux tendances de l'intimidation. Et je vais vous dire franchement, de ce que je vois dans nos écoles élémentaires et secondaires, il y a d'énormes belles initiatives, il y a de très belles initiatives qui se font pour contrer l'intimidation.
Oui, oui, mais justement à ce propos, est-ce que vous avez, je sais pas, des exemples? Ce serait peut-être, c'est peut-être trop vous demander, mais vous avez des exemples d'activités qui sont mises en place dans cette perspective-là, justement?
Oui, absolument. Cette année, le CSD-CCS s'est penché sur l'idée que on voulait outiller et mobiliser les témoins de l'intimidation.
Okay.
On sait qu'il y a trois partenaires dans l'intimidation. Il y a la personne qui s'engage, l'auteur de l'intimidation,
oui.
Il y a la victime, et il y a aussi les témoins. Et on se dit, et ça, c'est une initiative puis une idée qui nous est venue en concert avec ce qu'on entendait des policiers scolaires. On entendait ça des autres conseils, on entendait ça de nous aussi, que vraiment la clé, c'est de mettre fin à cette culture de porte-panier. En anglais, ils disent la culture de snitch. D'arriver puis d'avoir, les élèves semblent avoir peur de dénoncer l'intimidation. Et puis on a remarqué que les élèves ont peur de dénoncer leurs amis qui pratiquent l'intimidation parce qu'ils veulent pas qu'ils soient en trouble, ils veulent pas que la police s'implique, etc. Mais je pense que le travail qu'on fait, c'est d'informer les élèves de qu'est-ce qui se passe quand ils dénoncent l'intimidation. C'est pas nécessairement qu'on va arriver puis on va crucifier ou on va appeler les polices sur l'élève. Mais à quelque part, c'est dans certains cas, évidemment, c'est ce qui se fait, mais dans les cas moins sévères, évidemment, de dénoncer l'intimidation, c'est vraiment de démontrer que c'est pas la bienvenue dans nos écoles et que c'est eux les premiers qui sont sur la ligne de front et qui vont pouvoir mettre fin à l'intimidation. S'il y a personne qui nous dénonce, c'est très difficile pour nous, les administrateurs, les enseignants, les directions, d'aider les élèves à l'arrêter. Donc, dans nos écoles élémentaires et secondaires, on a essayé de différentes manières, que ce soit par des plateformes électroniques ou même papier-crayon ou même de manière anonyme, de dénoncer l'intimidation. Et puis, il y a des personnes responsables qui se sont portées bénévoles pour répondre rapidement aux élèves qui dénoncent, que ce soit par la voie qu'ils choisissent.
Ok, tout à fait. D'autant, comme vous l'avez dit, que les personnes à souffrir, c'est pas seulement les personnes qui sont directement victimes. C'est-à-dire que parfois, la personne qui se fait l'auteur d'intimidation peut parfois aussi exprimer une sorte de douleur, une sorte de souffrance à travers les actes qu'elle pose.
Oui, absolument. Puis, vous savez, c'est un phénomène de roue, l'intimidation, parce que dans le passé, ce qu'on remarquait, puis quand on regardait la littérature qui est sorti il y a déjà de quelques années, là je parle de plusieurs années, on remarquait que beaucoup des solutions à l'intimidation, c'est d'intimider l'intimidateur. Et ce que l'on remarque, c'est que l'intimidateur, entre guillemets, devient souvent victime après si l'intervention n'est pas bien faite.
Okay.
Donc, voilà le pourquoi est-ce qu'on veut outiller et bien valoriser les élèves qui vont dénoncer l'intimidation. Venez voir l'administration, venez voir les adultes qui sont dans vos écoles pour vous aider avec ceci, afin que, écoutez, on a un devoir de protéger les victimes d'intimidation, évidemment, mais il y a aussi un devoir, et c'est ce qu'on remarque, le devoir de protéger l'auteur de l'intimidation. Et parfois, pour une victime ou les parents d'une victime, c'est quelque chose qui est difficile à accepter, parce que son enfant ou soi-même, on a été victime. Mais à quelque part, nous, en tant que conseil scolaire, on a le devoir de protéger tous les partis. Et puis, c'est ce qu'on remarque souvent, c'est que quand l'intimidateur s'engage à ses actions, on remarque qu'il devient souvent aussi lui ou elle victime d'intimidation. Il faut protéger. Donc, de là, je pense que cette semaine nous permet de vraiment se concentrer sur le vocabulaire qui entoure l'intimidation et les différents phénomènes qui existent. Et on voit d'énormes succès et d'énormes pas qui sont faits dans nos écoles en cette matière.
Ah ben, je vous souhaite énormément de courage parce que je trouve que c'est un travail formidable que vous faites. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, nous souhaiter et souhaiter à nos jeunes que cette semaines finissent par disparaître parce qu'on sera parvenu à annihiler complètement ce phénomène?
Non, absolument. Vous savez, écoutez, je ne souhaite pas que cette semaine parte. Franchement, cette semaine-là, ce qu'elle nous apporte, c'est que ça nous apporte qu'en province, il y a un effort concentré pour parler de l'intimidation et pour donner le vocabulaire et les outils aux élèves. Et les élèves, tant qu'ils vont venir, tant que ce problème-là, je crois, va être présent parmi nous, ça va être important de continuer à éduquer. Le but de cette semaine d'intimidation-là, c'est pour s'assurer qu'on manque pas le bateau, puis que, justement, quand le phénomène va partir, qu'on relâche pas la vis, puis que ça nous revienne. C'est pour s'assurer qu'on y met fin, puis qu'il y a un effort constant et continu sur les initiatives que l'on place. Sachez aussi, ce qui est important de rassurer au public, c'est que cette semaine-là, c'est pas le seul temps où ce qu'on traite de l'intimidation. Il y a des activités au mois de février où ce qu'on a la journée du chandail rose qui va faire un retour sur ce qu'on a parlé au mois de novembre et puis qui va être un peu plus symbolique au niveau visuel, qu'on met fin à l'intimidation. Le rose a été la couleur qui a été choisie pour être un peu l'emblème de ce phénomène-là. On va y retourner. Il y a certaines de nos écoles qui choisissent de faire leur journée chandail rose pendant la troisième semaine du mois de novembre, mais qui vont le revisiter au mois de février. Il y a des initiatives qui se passent et on a trouvé par ces fameux sondages sur le climat scolaire là, qui semblent avoir des tendances pendant l'année à des temps plus forts où ce qu'on remarque qu'il y a plus de tendances ou d'élèves qui rapportent l'intimidation. Et c'est là qu'on va concentrer nos efforts pendant l'année. On le fait au mois de novembre, au mois de février et encore une fois au mois de mai. On s'ajuste si on a besoin de s'ajuster. Mais sachez que cette semaine-là, c'est une semaine où ce qu'on se concentre pour éduquer les élèves et on continue les initiatives tout au long de l'année scolaire.
Eh bien, très bien. Je vous souhaite vraiment que cette initiative soit couronnée de succès, parce qu'on en a réellement besoin. Je pense qu'il faut vraiment protéger nos jeunes. Et je vous remercie infiniment d'avoir répondu positivement à notre invitation, Monsieur Pelletier.
Ben, ça me fait plaisir et merci de prendre le temps pour couvrir un sujet qui nous passionne et puis que l'on trouve qui est très important pour tous les élèves en Ontario.
Je vous en prie. Passez une bonne journée.
Merci, pareillement.
Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM. Merci infiniment à Jason Pelletier pour ces très belles entretiens et notamment l'initiative liée à cet entretien qui est notamment la sensibilisation des jeunes au problème de l'intimidation. Nous savons que c'est un problème qui fait malheureusement énormément de ravages. On sait que de nombreux jeunes se sont enlevés la vie justement parce qu'ils souffraient dans leur chair et dans leur esprit des brimades dont ils étaient victimes et que parfois et dont parfois les auteurs ne mesurent pas nécessairement la gravité. Donc nous allons repartir en musique avec Kill Melrose alors que nous nous rapprochons progressivement de 8h et à 8h nous prendrons un autre bulletin d'info avec Denis Lépine, mais pour l'instant on va écouter King Melrose qui nous chante Ça se danse. Il est 7h passé de 56 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM. C'est Bonjour Toronto. Je suis Elvis Mouamsi. Bienvenue.
La musique d'abord. Choc FM.